11h sur Radio Campus Tours, chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Alors, saviez-vous, chers auditeurs, qu'à l'ouest de Tours se trouve la friche des casernes Beaumont-Chauveau et que cet endroit est entré en chantier? Alors, depuis un moment déjà, pour en savoir plus sur les casernes Beaumont, sur ce qu'il s'y passe depuis quelques années et surtout sur ce que va advenir ce territoire, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Houck. Bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane Houck, vous êtes conseiller délégué à la coordination du projet à la mairie de Tours. Vous faites partie du groupe Rassemblement citoyen des écologistes et de la gauche, donc vous appartenez à la majorité municipale. Alors, avant que de parler des casernes Beaumont, voilà un peu de pédagogie pour nos auditeurs. Est-ce que vous voudriez expliquer c'est quoi la différence entre un adjoint et un conseiller municipal?
Alors, un adjoint a une délégation clairement, il mène un champ de la politique municipale dans une direction. On va avoir l'adjoint à l'éducation, l'adjoint à la culture. Il a une délégation de signature, une délégation d'autorité de la part du maire qui lui permet de mener cette politique. Le conseiller municipal peut être délégué aussi à une certaine thématique, mais il n'a pas cet engagement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas engager la collectivité au nom du maire. Il n'est pas le référent politique d'un service complet de la collectivité, et le champ politique donc est un petit peu différent.
Et alors vous, vous êtes conseiller délégué à la coordination du projet.
Ouais, ça veut rien dire, hein.
José, voilà, hein? Je vous laisse le dire vous-même, mais voilà, vous allez
alors,
pouvoir nous
moi,
en
mon
dire
rôle,
plus.
Mon rôle au sein de l'équipe municipale, en fait, c'est d'être un peu le garant du projet municipal qui nous rassemble. Le nom de notre groupe, c'est le Rassemblement des écologistes et de la gauche, hein, et des citoyens, Rassemblement citoyen. Donc ça veut dire qu'on est plein de composantes différentes de partis politiques, mais aussi on est à la moitié quand même de citoyens non encartés, moi j'en fais partie. Il faut animer tout ce petit groupe-là, faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, et c'est mon rôle à l'intérieur de l'équipe municipale. Donc je suis président du groupe de la majorité, et je suis là pour faire en sorte que les projets transversaux puissent fonctionner, et pencher plus particulièrement sur certains projets. Donc j'ai pas une thématique particulière, je ne suis pas à l'éducation, à la culture, à l'alimentation ou autre, mais j'ai par exemple la thématique tiers-lieux, je vais accompagner avec deux de mes collègues, Anne-Désirée et Christine Blé, cette thématique autour des tiers-lieux. Et puis dans 6 mois, une fois que ça sera lancé, j'irai sur une autre thématique projet. J'ai commencé sur les mobilités avec Armel Gallou-Lavallée. Donc voilà, moi je suis un peu le zébulon qui fait 360, qui va essayer de faire travailler un peu tout ça en harmonie.
Le renfort stratégique?
Ouais, bah ça allez, on va dire ça, on va prendre.
Et alors, vous définissez comme un citoyen arrivé en politique. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce parcours? Pourquoi diable vous êtes intéressé
Et pourquoi diable il s'est lancé là-dedans, tout
voilà,
à fait.
Qu'allait-il faire dans cette galère?
Eh bien voilà, moi je suis traiteur, donc j'ai fait une reconversion professionnelle et ma première partie de vie, j'étais dans l'éducation populaire. Et c'était mon engagement du quotidien. Dans mon boulot, je trouvais mon engagement citoyen pour faire avancer... l'émancipation des plus défavorisés et tout ça et tout ça, donc plein avec des jolis mots. Et j'ai voulu changer de vie, donc j'ai changé de vie et puis je me suis retrouvé avec un petit creux quand même dans mon engagement citoyen. Et à ce moment-là, il y a Emmanuel Denis qui a lancé un truc de mi-mandat en disant si on essayait de faire les choses autrement. J'avais touché du doigt quelques partis politiques, mais ça ne m'avait pas fait plus vibrer que ça, on va dire, la lourdeur et tout ça. Et donc on a trouvé dans les cogitations citoyennes quelque chose d'hyper transversal sur lesquels on avait... à construire les bases, essayer de faire un petit peu les choses autrement. Et puis quand on se retrouve là, et ben voilà, une fois qu'il faut mettre son nom sur une liste, est-ce qu'il y a des raisons de dire non? Pas trop, donc on y va. Et puis après, on se retrouve élu. Est-ce qu'il y a... Et puis voilà. Et puis c'est donc tout le monde peut le faire. C'est vraiment aussi le sens de notre avec d'autres copains citoyens non encartés, c'est aussi de se dire on n'est pas obligé d'être du sérail, on n'est pas obligé d'avoir un tampon certifié sur le bras pour pouvoir s'engager, au contraire, quoi. Faut prendre les places.
Mais ça peut commencer par les conseils de quartier, alors?
Ouais, c'est les premiers engagements, c'est les premiers relais d'engagement, mais après, la vie associative tout court, je sais pas, animer une radio, par exemple, s'intéresser sur ce qui se passe dans sa rue, dans sa ville, dans son département, sur sa planète. Il n'y a pas de petits engagements, en fait, puis celui-là, il n'est pas plus noble qu'un autre, quoi. Il est... Il est dimensionné, il est pour 6 ans. On est mandaté pour faire un projet, pour essayer de et puis on rend compte sur... Ça, c'est mon rôle de coordination du projet. On rend compte de ce qu'on avait bien dit qu'on ferait.
D'accord. Est-ce que vous êtes un spin doctor, alors ?
Oh là là ! Non, j'ai pas ces qualités-là. Si tant est que ça soit une qualité.
Donc il ou elle est ailleurs. Merci à vous. Alors peut-être en revenir à ces fameuses casernes Chauveau. Donc au commencement était un lieu de culte, puis l'armée, puis les API appels à projets innovants de la municipalité précédente, puis le tiers-lieu. Est-ce que la chronologie est bonne ?
À peu près, ouais, c'est ça. Et il doit en manquer 2-3, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je les ai pas non plus. Il y a le musée du train, il y a des choses comme ça. Enfin voilà, mais il y a eu des écuries, oui, et toutes ces choses-là. Mais c'est bien ça.
Vous voulez nous en dire plus alors sur ces différentes étapes des casernes Beaumont? Depuis quand ça a commencé par être un appel à projet innovant? C'est devenu ce projet de tiers-lieu? Est-ce que vous voulez nous rappeler quelles ont été les grandes étapes? Parce qu'il y a eu un changement d'architecte aussi.
Ouais, alors en fait c'est un projet qui est en gestation depuis très longtemps, une dizaine d'années, où on sait que l'armée s'en allait, il y avait un espace qui se libérait. Donc forcément quand il y a un espace qui se libère comme ça, qui est repris par la ville, c'est un super projet urbanistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y fait, comment on construit la ville un peu sur ce volet-là. Donc l'équipe précédente avait choisi de passer par des API, avait commencé à travailler sur un schéma pour développer ce lieu-là. On n'a pas tout arrêté, mais on a changé un peu de gamme. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé, on a regardé, les API n'étaient pas concluants pour certains, pour d'autres, ils ont été faits. Donc il y en a qui sont... C'est des lots, en fait, hein, parce que les casernes, c'est 10 hectares hein, de mémoire. Donc c'est quelque chose de très, très grand. Nous, on a choisi de modifier les choses. On a envie de construire la ville un peu autrement. Donc, les collègues qui sont chargés du vraiment gros projet, parce que moi, je suis juste sur le tiers-lieu, donc c'est une petite partie de la ZAC, ont choisi de passer par un dialogue compétitif. C'est-à-dire que pour choisir l'architecte, le cabinet d'architectes paysagers et tout ça qui va se charger de vraiment toute la conformité du lieu, bah, c'est souvent des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt et tout ça. Et le choix du dialogue compétitif, c'est de mettre des citoyens à l'intérieur de ce process-là. Donc il y a des élus, des techniciens et des citoyens qui participent à l'élaboration du cahier des charges et le choix du cabinet d'architectes qui va élaborer tous les communs de ce nouveau quartier. Donc ça, c'est en cours. Ça va se finir, le cabinet devrait être... Ils sont 3 encore en lice et le choix devrait être intervenir avant l'été ou pendant l'été ou juste après l'été. Et puis après, il y a le tiers-lieu des casernes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est que souvent, ce qui se passe dans ces grands projets d'aménagement, c'est qu'on fait de la promotion immobilière, on met de l'activité économique, on essaie de rentabiliser un petit peu l'opération, ce qu'on cherche aussi, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un truc à perte, hein, mais il ne faut pas que ça soit que ça. Et puis quand on a tout fini, bah, on regarde s'il ne reste pas 10 mètres carrés pour pouvoir mettre un petit peu de vie sociale, quoi. Et de vie associative. On file des mètres carrés en bas et puis on essaie de voir comment ça se passe. Bah, nous, on a choisi le prisme complètement différent, c'est-à-dire qu'on a gardé les halles Beaumont. C'est 5 belles halles de 300 mètres carrés chacune, donc c'est 1500 mètres carrés au sol. Et on s'est dit, bah, on va commencer, le premier impact qu'on va donner, c'est que ça va être ce lieu-là qu'on va construire en premier. Et quand on a choisi de le construire, bah, on a choisi de se dire comment la ville se positionne, quoi. Qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur de ce truc-là? Ça a été notre premier, on va dire, notre première interrogation.
Alors, je reviens juste sur la ZAC. C'est quoi une ZAC ?
Alors, une zone d'aménagement, je ne sais plus le c'est. Voilà.
Appel aux auditeurs. Si vous
j'ai mon téléphone, je vais aller chercher.
Si vous souhaitez nous envoyer un message pour préciser ce
qu'il y a. Qui est mon ami.
Voilà. Et ben voilà, donc peut-être juste dire aussi que sur cette fameuse ZAC, donc, il y a aussi le projet de déplacer le Centre chorégraphique national de Tours.
Ouais. Voilà. C'est ça qui. C'est le premier. Gros équipement qui devrait sortir de terre.
Voilà, donc des logements, des bureaux, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a aussi une attention particulière qui est portée sur la biodiversité, je crois.
Ouais, c'est-à-dire que dans tous nos programmes, on a travaillé sur un référentiel urbanistique. Ça fait partie la première année où on est arrivé, on a essayé de travailler vraiment sur toutes ces thématiques de fond. Et la collègue Cathy Savouret, qui est adjointe à l'urbanisme, a vraiment travaillé avec les services, puis pas que toute seule, hein, avec d'autres membres de l'équipe, sur un référentiel urbanistique. En mettant des codes de pleine terre, par exemple, c'est-à-dire que dans tout programme de rénovation, on a doublé la pleine terre restante pour essayer de pas trop artificialiser les sols, travailler sur des chemins, travailler sur des communs, travailler sur l'existant. C'est-à-dire que là, on crée pas un quartier tout nouveau tombé comme ça du ciel, mais on essaie de l'harmoniser avec ce qui existe autour, que les riverains ne subissent pas ce territoire, mais puissent l'accaparer aussi. Enfin voilà, plein de choses comme ça.
Voilà, et je crois qu'il y aura aussi voilà, quelque chose pour développer la filière du bois.
Ouais.
C'est quoi ça alors ?
Voilà, je suis pas spécialiste de la ZAC, hein. Moi c'est plus les tiers-lieux, mais c'est en fait ça je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais ça fait partie des API, je crois. Ou en tout cas, c'est une parcelle qui a été donnée autour de toute la filière bois, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles entreprises, c'est comme ça qu'on rappelle les startups maintenant, enfin qui vont travailler autour d'une filière bois.
Voilà, bon, et ben si, voilà, on peut inviter peut-être quelqu'un qui est plus spécialisé de la ZAC dans une autre émission. Mais pour en revenir sur ces fameuses casernes, hein, donc voilà, sur le lieu en cours, le tiers-lieu, ça me fait bafouiller. Donc la municipalité souhaite animer temporairement ce lieu avec différentes associations voilà, dans les anciennes écuries. Donc il y a tout un programme qui a été mis en place, je crois.
Alors, c'est... Je vais dire non.
Non, on nous ment.
On nous ment. Non, non, c'est justement, c'est la méthode. Nous, on est garants de la méthode. C'est-à-dire, les trois élus qui sommes attachés à ce projet, l'idée, c'est justement de ne pas en faire un lieu totem, de ne pas en faire un lieu culturel ni un lieu municipal. C'est-à-dire que 6500 mètres carrés là, c'est de se dire comment on peut les céder aux habitants, aux assos, aux futurs habitants, à ceux qui sont déjà là. Donc, en fait, on ouvre une permanence d'usage. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, venez expérimenter de 3 heures à 3 mois, gratuit. Vous venez, vous utilisez les locaux, vous essayez des trucs. Et surtout, ce qu'on va essayer à partir de ces temps de rencontre, c'est animé par la CET, qui est l'aménageur, hein, au titre de la ville. Donc c'est ça aussi qui est tout nouveau, c'est que c'est un aménageur qui prend en charge la gestion de ce tiers-lieu pour l'ouvrir au public. Et de ces permanences d'usage, ben on va essayer de créer la gouvernance et le modèle économique de ce futur espace, quoi. Donc il va y avoir le 2 avril, samedi, à partir de 15h, des portes ouvertes. Et là, il y a déjà un petit collectif qui s'est constitué autour d'assos qui sont sensibles. Le centre social Maryse Bastiat qui est à côté, pas mal de la ressourcerie, pas mal d'acteurs qui sont dans le coin, qui ont envie d'expérimenter et de tester. Donc il y aura les premiers habitants du lieu qui vont être présents sur ce 2 avril. Mais l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir au maximum et à tout et à tous.
Vous avez dit les premiers habitants ?
Bah ouais, les habitants qui sont déjà juste à côté, les voisins.
Donc les habitants du quartier.
Bah il y a Maryse Bastiat qui est à côté et Rabelais. D'accord. Pour nous, c'est aussi politiquement l'idée de ce tiers-lieu, c'est aussi d'essayer de faire le pont entre ces deux territoires. Il va y avoir un nouveau quartier qui va être au milieu. C'est comment on fait pour que ces gens puissent se rencontrer. La veille, le vendredi 1er, il y a le centre social qui a invité les deux écoles, Rabelais et Maryse Bastiat, à pouvoir se réunir, se rencontrer sur le site pour pouvoir avoir un petit spectacle, un petit goûter, des petites choses comme ça.
D'ailleurs, il y a aussi le projet de rapatrier, n'exagérons rien, mais de déplacer en tout cas l'école dans la ZAC.
Ouais, alors. C'est ça, de rapprocher l'école Maryse Bastiat du nouveau quartier des casernes, ouais, de Beaumont-Chauveau. Ouais.
Alors avant de continuer à se pencher sur ce tiers-lieu, je vous propose d'écouter une archive alors, qui n'est pas si ancienne que ça et que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube de la CET. Voilà, donc c'est Valérie Dubreuil qui parle des casernes Beaumont-Chauveau. Et donc comme ça, vous pourrez réagir ensuite sur ce document, si vous le souhaitez, Stéphane Houck.
L'opération des casernes Beaumont-Chauveau, c'est un véritable projet de renouvellement urbain au cœur de la ville de Tours. Il s'agit, pour la CET, d'aménager 10 hectares de friches militaires qui ont été quittées par l'armée en 2009. La situation des casernes bénéficie d'un emplacement exceptionnel dans la ville. On est à proximité immédiate du centre-ville de Tours, à proximité de grands équipements d'intérêt d'agglomération. On est également au cœur de quartiers existants et vivants, notamment le quartier Rabelais, le quartier Maryse Bastiat. La première mission de la CET a été d'accompagner la ville de Tours dans la conception du projet et dans toute la partie relative aux procédures administratives et réglementaires. À partir de maintenant, la CET va engager la phase opérationnelle du projet. Une première étape a été engagée avec les acteurs opérationnels, donc l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, qui va avoir en charge à la fois la conception technique du projet et la réalisation des travaux, mais également avec l'architecte urbaniste de la ZAC, Bruno Fortier, qui accompagne la CET et la ville depuis l'origine du projet jusqu'à la fin de l'aménagement de ce quartier. Donc les bâtiments qui seront conservés sont le pavillon Condé, qui est le dernier élément historique de l'abbaye de Beaumont-les-Tours, deux anciennes écuries qui, elles, appartiennent au passé militaire. Un autre bâtiment doit être conservé, il s'agit de la Grande Halle, donc le quartier Beaumont. L'opération des casernes Beaumont-Chauveau va s'articuler autour d'un grand parc urbain. Ce parc, qui va faire de l'ordre de près de 2 hectares, va structurer le futur quartier selon un axe nord-sud. Aujourd'hui, le boulevard Jean-Royer bute en impasse sur le mur des casernes. Le projet urbain vient ouvrir ce mur et vient prolonger le boulevard Jean-Royer jusqu'à la rue du Capitaine Pougnon. Le projet urbain prévoit une grande place aux circulations douces, aux piétons et aux deux roues. Donc une diagonale piétonne viendra traverser depuis le prolongement du boulevard Jean-Royer jusqu'au vers le pavillon Condé. Ce nouvel axe majeur de desserte du quartier sera peut-être également le support d'un futur transport en commun en site propre. Aujourd'hui, le quartier est un quartier qui vit déjà. Donc, on y trouve notamment la présidence de l'université, un certain nombre de services administratifs. Le site est également occupé par un restaurant universitaire, donc au nord de la rue du Plat d'Étain, une résidence étudiante qui est en cours d'achèvement de construction, et la résidence de Tour Habitat, la résidence de l'alternance, qui a ouvert en 2016. On peut également citer le Biocube, hein, qui est un équipement de l'université qui a été inauguré en 2015, qui crée aujourd'hui une animation importante sur la partie nord du futur quartier. En fait, c'est comment relier, intégrer le futur quartier dans un ensemble qui vit, qui fonctionne, et finalement, comment proposer peut-être un peu plus de choses de façon à ce que les gens soient heureux de venir vivre dans ce quartier et y trouvent un intérêt.
Voilà, donc une archive de 2016, hein, je le rappelle, ça date déjà un peu. C'était Valérie Dubreuil, voilà, une vidéo proposée par l'A7. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Ça a changé quand même.
Ah, il y a plein de trucs qui ont changé, ouais, du coup. Hein. bon, j'ai bon sur les 10 hectares. Hein, j'avais. Voilà. Moi, ça, c'est bon. Non, mais Bruno Fortier, en fait, c'était l'architecte qui était pris à ce moment-là. Et son mandat, c'est terminé. C'est pour ça que nous, on est parti sur un dialogue compétitif. C'est qu'il y avait une fin du mandat, ce qui est donné aux architectes pour pouvoir préfigurer, travailler et tout ça. Ils ont un mandat dans le temps. Là, il arrivait à être caduc, donc c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces modifications. Donc là, il y a plein de choses, le transport commun en site propre, la diagonale, l'ouverture, qui vont potentiellement pas être mises en cause, parce qu'il y aura toujours ces questions de mobilité qui vont être particulièrement bien travaillées, mais qui vont être, du coup, adaptées.
Et alors, dans cette vidéo, il y a un accent fort qui est mis sur la population étudiante sur ce quartier-là, et donc... Est-ce que c'est des structures, en tout cas une population qui est présente sur le quartier, donc qui habite le quartier, qui est aussi invitée à investir le tiers-lieu?
Oui, bien sûr, on a rencontré les assos étudiantes qui, voilà, il y a déjà eu des rencontres. C'est Léa Finot qui travaille pour l'A7 et missionnée par la ville pour animer ses permanences d'usage et puis rencontrer tous les partenaires. Donc elle a pris son petit bâton de pèlerin pour aller rencontrer tout le monde, dont l'université et les assos étudiantes qui ont quelques projets déjà pour pouvoir essayer d'investir un peu les halles. Pareil, tester des choses, essayer de faire les choses un peu différemment. Donc oui, bien sûr. Et c'est une ressource. Et on sait aussi que ça peut devenir un lieu transitoire, un lieu de pause le midi, un lieu de... Voilà, ça peut être tout ça. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on s'est mis dans un coin en se disant « ça peut être ça ». On essaye de rien figer pour le laisser devenir ce qu'il doit être, mais bien sûr que la vie étudiante est un des enjeux sur ce territoire.
Parce que cette idée de vie étudiante, donc c'est une population jeune qui est là à un moment donné, donc qui bouge en fait, contrairement peut-être aux habitants du quartier qui restent de façon... c'est-à-dire plus pérenne, peut-être, et il y a aussi tous les personnels de l'université qui sont là pour travailler, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent ce quartier déjà de façon... complètement différente.
L'idée d'un tiers-lieu, si on en revient un petit peu à l'étymologie, parce que tiers-lieu, on fait plein de trucs, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui se disent tiers-lieu ou quoi que ce soit. Je dis pas que nous c'est bien, pas du tout, mais on peut avoir MAM, c'est un tiers-lieu, mais qui accueille, qui fait du coworking, enfin qui voilà, hein, qui a une petite cafette pour accueillir les gens, qui fait un peu incubateur et tout ça. L'idée première du tiers-lieu, quand on le prend à l'anglo-saxonne, c'est vraiment le troisième lieu entre le travail et la maison. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet espace? qui peut devenir un espace transitoire où on peut s'y arrêter 10 minutes comme il est passé 3 heures et on n'y vient pas forcément pour quelque chose. Donc nous, c'est vraiment dans cette idée-là qu'on veut essayer de le construire ou en tout cas de permettre de le construire. C'est pas forcément y mettre nos intentions politiques à nous, avec, parce qu'il y a plein de trucs, hein, si jamais 1500 mètres carrés qui arrivent, on parlait des locaux de Radio Campus, voilà, mais il y a plein d'opportunités qui se disent, il y a plein de gens qui ont besoin de mètres carrés. On aurait pu faire une distribution, il y en a 1500, 300 ici, 200 là, et puis ça aurait eu du sens, hein, mais c'est pas ce qu'on veut y faire et on veut essayer de le travailler différemment. Et forcément, les étudiants, ils habiteront peut-être pas le territoire parce qu'ils viennent y bosser ou ils viennent y étudier. Les personnels enseignants et le personnel technique y travaillent quotidiennement. Ça peut être un espace complémentaire à leur vie. C'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on va tenter, c'est le pari qu'on essaye de faire.
Et donc, c'est les quartiers, Rabelais et Maurice-Bastier, c'est des quartiers qui ont des particularités quand même.
Ouais.
Vous voulez nous en parler ?
C'est des quartiers qui se ressemblent peu, sociologiquement, géographiquement, urbanistiquement. On a un quartier Maurice-Bastier qui est un quartier politique de la ville, donc qui a quelques indicateurs qui le classent pour avoir des soutiens de l'État sur la programmation urbaine et tout ça. Un quartier plus pauvre que le quartier Rabelais, qui est lui pour le coup un quartier où on a un habitat qui est beaucoup plus cher sur de location ou sur de l'achat, et on est deux territoires qui se regardent au travers de ce nouveau quartier qui va arriver, les casernes Beaumont-Chauveau. Et c'est pour ça aussi qu'on reconstruit l'école avec les sous du NPNRU, c'est l'État, c'est la rénovation urbaine en fait qui permet aussi de complémenter les financements pour pouvoir reconstruire l'école complètement. Et ce schéma d'essayer de la rentrer un peu plus dans le quartier des casernes, c'est pour essayer de limiter les frontières entre ces et d'essayer d'être fluide dans les transports et dans les transferts de population et que chacun puisse se sentir appartenir à ce même lieu de l'Ouest Tourangeau.
Voilà, donc il y a ces deux quartiers dont on parle souvent hein, dans les communiqués, articles qui sont à lire sur les casernes Beaumont-Chauveau. Et pourtant, il y a un autre quartier qui est tout à fait voisin quand même, hein, je pense, rue Giraudeau mis à part, c'est le quartier des Prébandes. Donc là, c'est un quartier qui est peu cité, sauf par Madame Savouré.
Ouais, c'est ça. Alors quand c'est un peu un, c'est plus Rabelais-Prébandes, on va dire. Voilà, on est plus sur Rabelais-Prébandes, qui est un peu quand même une unité géographique, parce que là, il y a quand même de la porosité sur le volet. Et c'est vrai que cette rue Giraudeau cet ancien quartier des casernes, en tout cas les anciennes casernes, séparaient quand même très très fortement le quartier Maurice-Bastier du reste de ce territoire. Donc l'enjeu urbanistique, il est aussi celui-là.
Alors, l'idée, c'est aussi de permettre à tous ces habitants, donc qui ont vraiment des problématiques souvent très différentes, peut-être des cadres de référence différents, des niveaux de vie différents aussi, et voilà, de permettre à tout le monde de se saisir de ce tiers-lieu.
Ouais. C'est vaste hein, comme ambition. Hein.
C'est très ambitieux.
Oui, mais c'est faux. Oh, il le faut. Il ne faut pas qu'on fasse... les gens ont beaucoup plus de similitudes qu'ils ne... Enfin, ça reste des... Enfin, quand on parle des écoles, ça reste des parents. Hein. Ils ont tous envie que leur gamin aille le mieux possible, réussisse le mieux possible. C'est ce qui fait écho à tous. C'est travailler... On sait qu'on travaille à partir des familles et des écoles. Les directrices, la directrice de Rabelais nous a accueillis pour faire des réunions préparatoires dans son école. Ils sont vachement réactifs. Le centre social est très actif pour pouvoir aussi mobiliser les habitants. Donc voilà, il y a quand même du terreau commun, quoi. On habite la même ville, on a de temps en temps les mêmes préoccupations. On va plus essayer de travailler sur le commun que sur ce qui nous différencie.
Et c'est quoi alors ce commun ?
Ça passe par les enfants, ça passe par le territoire qu'on habite, ça passe par nos envies. On a tous envie d'avoir un petit temps pour pouvoir souffler, respirer, se poser sur un parc qui est un peu sympa. Parce que là, il y a les halles qui font 1500 m², mais la parcelle est de 6000 m², donc il y a aussi des extérieurs. Il y a un cabinet paysagiste qui va accompagner les habitants pour essayer de créer les extérieurs qui pourraient être sympas, sur lesquels on pourrait prendre un petit peu de temps se balader, flâner un petit peu, boire un petit café ou une boisson rafraîchissante. Ça parle à tout le monde. Après, c'est les conditions d'accès, les tarifs, les temps... Tout ça, ça va être de la dentelle après pour pouvoir permettre.
C'est vrai qu'un bel espace vert, c'est quelque chose qui est souvent absent des quartiers prioritaires.
Ouais, on a fait de la densification souvent. On a fait de la densification urbanisée, mais qui correspond à une époque. Hein. Faut pas cracher dessus forcément par principe. Hein. Mais c'est après, c'est nous notre responsabilité d'équipe, nous et puis surtout avec la couleur et surtout le programme qu'on porte, c'est comment on fait pour remettre du vivant à l'intérieur de la ville. Comment on fait pour faire une ville qui soit à l'échelle l'échelle humaine, tout en permettant plein de choses. C'est-à-dire que voilà, hein, être sur une agglomération de 300 000 habitants et sur une ville de 135 000, ça nous permet d'avoir une scène nationale, de pouvoir accéder à ces choses-là, l'accès à la Loire, l'accès au patrimoine naturel. Donc ça fait partie de nos enjeux forts. Et c'est vrai que, je vous parlais du référentiel urbanistique, mais c'est le 30% de pleine terre, il vient aussi de là, quoi. C'est-à-dire que on ne fait pas que du béton, on essaie de travailler sur les transitions, on essaie de travailler sur les... On aime bien parler de la ville des courts chemins, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire à pied, en vélo, dans sa proximité directe, et qu'est-ce qu'on doit pouvoir avoir un accès à la nature assez simplement et facilement.
Comme on avait autrefois accès à la préfecture, là c'est l'accès à la nature.
Mais c'est un bien public, c'est un bien commun. C'est-à-dire que oui, il y a de l'accès aux services publics et aux services de proximité, mais le bien public et le bien commun, c'est aussi notre nature. On s'en rend compte, voilà, tout maintenant un peu plus qu'avant. Peut-être que c'est devenu une préoccupation un peu plus particulière. On la masquait peut-être un peu. Là, maintenant, nous, on la réaffirme. Mais ça fait partie de nos priorités.
Mais alors, le sol, comment dire, de cet espace, de cette ZAC, est-ce qu'il est très urbanisé au point qu'on ne peut plus rien y faire pousser dessus? Comment ça se passe? Parce que, imaginons dans l'idée, par exemple, de monter quelques jardins ouvriers. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est seulement possible? Ou c'est ce qu'il faut faire des bacs surélevés parce que le sol ne permet plus?
Moi, je sais pas, après, faut regarder. Là, je sais qu'ils font beaucoup de fouilles, donc ils remuent pas mal. Hein. Là, on a de la terre, on en a un paquet. Hein. On peut faire des buttes et tout ça, il y en a beaucoup. Ça, après, techniquement, je sais pas, mais je pense qu'après, tout peut s'envisager. Faut déjà partir de l'envie et du besoin. Donc, voilà.
Mais ce serait pourquoi pas,
pourquoi pas. Sur la parcelle de 6000 m² qu'on a, qui est dédiée, parce qu'après il y a tout le plan masse, si vous voulez, sur les 10 hectares, il est quand même assez, assez spécifique, hein. Il y a déjà des choses qui sont délimitées pour pouvoir faire du parc, pas ornemental, mais en tout cas du parc de vie, des choses comme ça. La parcelle du tiers-lieu, donc les 4500 m² de terrain qui restent, hein, par rapport aux 1500 m² de bâti, on en est collectivement responsable et voilà, on peut y émettre plein de possibilités. Donc pourquoi pas, oui, une surface potagère partagée. Voilà, ça serait chouette.
Oui, ça serait chouette. Et juste avant de faire une pause musicale, voilà, je voulais juste revenir sur voilà, ce que disait Cathy Savouré, donc, puisque elle parlait de ce quartier, elle citait les prébendes, et donc elle disait, Maryse Bastier, Rabelais, prébendes, voilà, elle disait que pour le moment que c'était la ZAC est un endroit qui n'est pas construit, que c'est encore un no man's land. Alors moi, quand j'entends no man's land, je vois les barbelés, les impacts d'obus et tout, je me dis quand même, c'est pas la philosophie, enfin, c'est pas l'état des lieux entre ces quartiers, c'est pas à ce point-là. Même si c'est un ancien terrain militaire, ça communique quand même.
Ah ben, ça communiquait pas des masses, hein, parce que c'était quand même vachement fermé, c'était très clôturé. Quand vous écoutiez tout à l'heure, j'ai plus le nom, de la dame de la Sète qui préparait, qui disait que le boulevard Jean Royer venait se buter contre le mur des casernes. C'est un peu ça quand même, hein. C'est-à-dire que quand vous prenez la rue du 4e Pourdion, on avait des super taxes tout au long du truc, mais c'était quand même une enceinte fermée qui donne sur Maryse Bastier, mais donc du coup on a vraiment une route et après un grand mur avec un portail certes et tout ça. Donc c'est ça où il va falloir retravailler les mobilités et les porosités. Et puis là c'est un terrain en friche en tout cas en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas un no man's land, mais c'est vraiment un terrain en friche. Il va y naître plein de choses, il s'est passé plein de choses, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre. Je pense que dans ce qu'elle voulait dire, c'est de pas créer un quartier hors sol, de comme on a pu. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein, mais ici, par exemple, on a créé un quartier des Deux Lions. On l'a fait monter périphériquement, bloom. Mon conseil, on l'a fait un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on a mis une rue qui passe, la rue Daniel Meyer, et puis on a fait monter un quartier. Notre idée là, c'est plus qu'il soit viable avec ses voisins, ce nouveau quartier. C'est-à-dire qu'on réfléchisse à. Il y a déjà d'existants là-dessus. En plus, on est en hyper. Là, pour le coup, on est en hypercentre, autant mon conseil que les Deux Lions. On était sur les extérieurs, on avait besoin de densifier et tout. Mais là, on est en hypercentre et il y a un vécu. Donc, il faut qu'on s'en serve pour pas poser quelque chose, mais pour travailler les continuités entre ce quartier Maryse Bastier, les Prébendes et Rabelais.
Voilà, je pose ces questions pour aussi qu'on mesure l'enjeu, en fait, la difficulté du projet, voilà, qui est quand même, à mon avis, loin d'être évidente. Donc je propose une pause musicale et nous allons écouter Joby Valent. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale dans la Méridienne. À tout de suite.
Est-ce besoin en vallée?
Non, non, non.
Vous faites cure à jour?
Non, non, non.
Dire bonjour, monsieur?
Non, non, non.
Dire bonsoir, madame?
Non, non, non.
Hop, très fait mon pas vorace, mon panier le coq des champs, mais mon ouais, mon pout de champ, mon ouais. Ça qui belle, ça qui a vieilli, ça qui faux, ça qui a faibli. En tout une bambou moins bon, oui, en tambour, mon à l'aise, en haleine, dis donc. Hop, hop, hop,
hop,
défier la baïonnette, prends courage, prends courage, prends courage. Si mon père dit moins, tu es moins, même en bateau dernier sang, les rôles dansés en dieu fait main, l'autre l'a ouvert pour si pas d'ici en l'air.
ondes sur Radio Campus Tour, mi-moins, mi-août. Voilà, donc vous écoutez toujours La Méridienne et mon invité c'est Stéphane Houck. Voilà, vous représentez ici la mairie de Tours. Nous parlons du tiers-lieu, les Beaumont, voilà, sur le site des casernes Beaumont-Chauveau, voilà, partie ouest de la ville de Tours. Alors vous expliquiez que c'est une expérimentation, ces tiers-lieux. Et voilà, donc il y a quand même déjà eu de la communication sur les réseaux sociaux. On sait qu'il va y avoir, je mets des guillemets, mais une bamboche le 2 avril, ouais. Voilà, où tout le monde est invité à venir. C'est un lieu qui est présenté comme plutôt cool. Et alors, j'aimerais savoir, comment vous travaillez avec les assos, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un peu place to be, quoi, les casernes. Voilà, est-ce que c'est une opération séduction, il faut y être, il faut se montrer, parce qu'on a besoin d'un local, par exemple, ou on veut s'implanter sur le quartier, et du coup, comment vous expliquez vos attentes à toutes ces structures?
C'est ça qui est, c'est dans nos premières rencontres, c'était ça qui était plutôt rigolo, c'est que on a fait un peu Léa Fino, qui s'occupe du projet, a été voir un petit peu les partenaires et tout ça, et sur les premières rencontres qu'on a eues, c'était, mais qu'est-ce que veut la ville? Et en fait, la ville veut pas grand-chose à l'aide de ce lieu-là, elle veut juste s'assurer, nous on est un peu les garants de l'expérimentation. L'expérimentation, elle vient aussi de rencontres qu'on a pu avoir, de discussions qu'on a eues avec les assos, ce qui était possible, pas possible, comment on voyait les choses. On a commencé à travailler sur les modes de gouvernance, mais sans rien figer, en se donnant le temps justement de cette permanence d'usage. C'est-à-dire que là, la saison 1, c'est du 21 mars au 21 octobre, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les lieux, donc il y a un peu. Donc voilà, ça fait aussi partie des premières choses. Le bâtiment, il a juste été mis aux normes pour pouvoir accueillir du public. Donc il est hors d'air, hors d'eau, ce qui s'appelle qu'il ne pleut plus à travers la toiture et les portes ferment. Et donc voilà, le lieu est brut. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a un côté un peu brut dans son jus et tout ça qui permet de plein d'imaginaires. Et après, vient qui veut, donc on fait pas forcément, on n'a pas de commande en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous on n'attend pas, on n'a pas de commande. Ceux qui veulent, viennent. Il y a 10 règles du jeu, alors je les ai pas toutes en tête, mais voilà, c'est le principe c'est de la gratuité, gratuité du local pour pouvoir y venir, donc il est donné à ceux qui veulent expérimenter. De 3 heures à 3 mois, moi on a dit 3 mois parce qu'il fallait donner un truc, donc on peut y venir pour 3 heures, on peut y venir pour 3 mois. Il faut pouvoir conventionner quand même pour pouvoir s'assurer que voilà, si jamais il arrive un pépin ou quoi que ce soit. Mais après, toutes les expérimentations, c'est possible, sur l'intérieur, sur l'extérieur. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer d'accueillir ceux qui veulent y être et que ces personnes qui vont être là puissent, pour l'instant, c'est ouvert 3 jours. C'est Léa et Joséphine qui font les permanences du mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h. Mais demain, si jamais il y a une asso ou un collectif de citoyens qui vient le samedi, le deal, ça serait qu'ils s'assurent aussi l'ouverture du lieu pour d'autres. C'est-à-dire que voilà, on arrive à trouver et petit à petit, on va cheminer pour trouver un mode de fonctionnement commun. Enfin, les personnes qui fréquenteront le lieu trouveront ce mode de fonctionnement commun qui peut devenir une gouvernance, dont sortira peut-être aussi, parce qu'il va, on va pas parler sous à un moment donné, c'est que ça coûte forcément un peu d'argent, donc quel modèle économique peut se poser ici? Mais on ne met pas en fait, nous ce que vraiment la méthode qu'on veut mettre, c'est qu'on ne met pas ni la gouvernance, ni l'existant économique en premier lieu. Parce que sinon, on induit forcément les usages qui vont pouvoir en être faits. On fait le pari de partir sur les permanences d'usage, de permettre l'usage, de permettre le lieu qui soit capable de vivre son expérimentation, et que les gens qui seront à l'intérieur puissent devenir les acteurs, les fondateurs, et que sais-je.
Voilà, parce que, ça peut être des entrepreneurs culturels, pas forcément des assos d'ailleurs, mais il y a quand même une demande forte de locaux. Et donc là, du coup, de se dire que c'est pas forcément la vocation du lieu.
Voilà, ça peut faire partie des frustrations qu'on a quand on rencontre certaines compagnies, qui et on comprend, qui galèrent depuis un petit bout de temps, qui cherchent des lieux et tout ça. Christophe Dupin, qui est l'adjoint à la culture, les rencontres, on sait. Et je vais vous dire une chose, c'est aussi pour ça qu'on est conseillers municipaux à copiloter ce tiers-lieu. C'est-à-dire que vu qu'on n'est pas adjoint, on a moins de prises ou de trucs comme ça qui nous diraient « Ouais, putain, on a quand même besoin d'une galerie d'art visuel, on a quand même besoin comme ça » et qu'on induirait, malgré nous, de temps en temps, le fait que ça serait bien quand même, parce que si jamais j'arrivais à caser un peu ça, nous, en étant conseillers municipaux, on a un peu plus de distance par rapport à ces enjeux, ce qui nous permet d'être vraiment plus dans le lâcher-prise et dans le laisser-faire plutôt que dans j'ai quand même des contraintes, il y a quand même des gens qui ont besoin et... On n'y pas les besoins, mais c'est pas le lieu pour. En tout cas, ça pourra peut-être le devenir, mais c'est pas nous qui le choisirons.
Et c'est vrai que peut-être l'idée de travailler, vous êtes deux ou trois sur ce projet, trois je crois.
Trois élus, ouais.
Donc en fait, c'est peut-être aussi le fait d'avoir le regard des autres. Et du coup, de dire, bah voilà, c'est pas parce que moi je trouve que c'est une bonne idée d'implanter telle structure que les autres sont d'accord. Et du coup, déjà entre vous, ça permet peut-être...
Ouais. Mais nous, on s'est calés. Hein, c'est-à-dire que... Bah, puis on n'est pas que tous les trois à avoir choisi. Hein, c'est tout au début, on était avec Emmanuel Denis, le maire, voilà, puis d'autres, hein, les adjoints voilà, Cathy Savouret sur l'urbanisme, parce qu'on va, faut pas qu'on fasse quelque chose de complètement déconnant par rapport à la qui est en train de se construire. Mais on s'est fixé un cap collectif. On a déterminé quelques intentions politiques, pour le coup. Et nous, les trois, maintenant, on est un peu les gardiens de ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que nous, on est là pour que ça puisse fonctionner. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les premières réunions, on en faisait partie, mais on était vachement détachés, en fait. Et pour pas... Parce qu'on sait que si jamais l'élu a dit quelque chose, bon, bah, du coup, ça devient un peu parole sacrée. Donc, on va faire un peu en fonction de ça. Donc, on intervient très, très peu pour essayer juste d'être là en... voilà, en caution, on va dire, du fonctionnement ou du futur fonctionnement de ce lieu, mais sans trop y mettre notre patte, justement pour laisser la place aux habitants et aux assos.
Voilà, et donc face à des associatifs ou des entrepreneurs culturels ou d'autres personnes qui ont quand même l'habitude de la prise de parole en public, de s'adresser à des élus, comment vous allez accompagner peut-être les habitants pour qu'ils se sentent légitimes, pour eux aussi venir proposer des choses et peut-être sans être forcément toujours accompagnés?
Bah, c'est le boulot de Léa et Joséphine, là, pour le coup, qui vont être sur le site, mais pas que. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste dans les locaux en ouvrant, en fermant les portes. Leur boulot, c'est aussi d'aller... au-devant, sur les places de marché, quand elles y sont. Je pense qu'on se fera une petite permanence sur le marché, sur le marché Rabelais, et puis sur l'autre marché, pour pouvoir, en tout cas, faire connaître les Beaumont. Parce que ça tourne pas mal, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça tourne pas mal dans les réseaux culturels ou ceux qui sont déjà un peu initiés, quoi. Voilà, ça fait un peu de buzz, ça fait un peu de trucs, ouais, y a un nouveau espace qui vient, The Place to Be, je sais pas, mais en tout cas, voilà, la curiosité du moment, faut que ça soit la curiosité de tous, c'est-à-dire que bah ouais, faut aller sur les... faut aller dans les rues, rencontrer les gens, se présenter comme le futur voisin, en tout cas, comme ça. Et ça, c'est le boulot de Léa et Joséphine qui vont assurer les permanences, mais pas que.
Parce que après ça peut aussi être à la fois intéressant mais effrayant pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans les salles de spectacle, de se dire tiens, il y a un super événement qui a eu lieu, mais peut-être que c'est pas pour moi parce que j'y connais rien, parce qu'on va me regarder si j'y vais.
Ouais, je vais employer des gros mots, mais c'est les droits culturels, c'est pas la marotte, mais le cheval de bataille de Christophe Dupin qui a adjoint à la culture. Et c'est vrai que on a toujours ça en tête. C'est-à-dire que comment on fait pour permettre, mais comment on fait pour permettre à tous, quoi. On sait bien, on essaie de faire attention. Hein. Dans mon ancienne vie, je travaillais dans l'éducation populaire. Si j'étais toujours dans mon ancienne vie, j'aurais été un des premiers à venir sur les casernes de Beaumont-Chauveau pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient y venir, machin et tout. Faut qu'on soit suffisamment ouvert et c'est notre mission à nous là pour le coup, c'est d'essayer de permettre à chacun de pouvoir y trouver sa place. C'est pas facile, hein. C'est loin d'être simple, hein. C'est des jolis mots comme ça posés, mais c'est beaucoup de boulot de quotidien. Travaille beaucoup avec le centre social, mais parce que il est très implanté et il voit aussi l'opportunité lui pour les habitants, hein, de ce que peut être ce futur lieu. Pas oublier la jeunesse, voilà, qui est un peu fluctuante et qui n'est pas la même des deux côtés du territoire, donc comment créer ces espaces de repères. C'est pas un lieu qui n'a pas vécu pendant 10 ans, hein. Les murs peuvent en témoigner, donc il y a eu des habitants aussi qui n'étaient pas des habitants invités, mais ils font partie aussi de cette histoire. Où sont-ils, est-ce qu'ils ont encore envie d'y venir, quelle participation il pourrait y avoir, ils font partie de l'histoire autant que d'autres sur ce lieu. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qui pour l'instant ça fait un peu fourmillement. Et puis on va le vivre maintenant, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a beaucoup réfléchi pendant 6 mois et là maintenant ça va se vivre.
Et alors sur l'idée de proposer peut-être des choses autour des arts plastiques, est-ce que, je dis ça parce que c'est bon. J'aime beaucoup le musée des arts modestes de Sète, mais est-ce que quelque chose autour de l'art modeste ou de l'art brut, ça pourrait...
Et pourquoi pas, mais je sais pas. C'est pas à moi de le dire. Non mais c'est là, c'est-à-dire que, encore une fois, on n'a pas de vision à y mettre des choses. Et on essaye de ne pas avoir de vision pour y mettre des choses et pour ne pas transposer nos envies à nous, soit en tant qu'équipe municipale ou en tant qu'individu même, parce que moi j'aurais plein d'envies, mais comme d'autres, il faut qu'on fasse gaffe nous. Alors là je parle vraiment de la place d'élu, après tous les associatifs, mais qu'ils y aillent et qu'ils proposent des choses, quoi.
Vous avez dit les associatifs, mais peut-être les habitants.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors plus largement, c'est associatif, habitant, collectif de citoyens, tout ce qu'on veut.
Parce que je ne sais pas quelles sont les nationalités présentes sur les quartiers, sur le quartier Bastier par exemple, même sur les autres, voilà, sur le quartier Rabelais, mais je suppose qu'il y a plein de personnes qui ont des trésors culturels à partager.
Bien sûr.
Donc là, dire bah venez, faites. Mais ça, comme vous le disiez, c'est faut que les personnes se sentent autorisées,
ouais.
Qu'elles s'autorisent.
Permises. Ouais. Permise. Ouais, 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 ouais. Nous, on est en charge là, d'un premier lieu. Vraiment, le premier lieu, c'est ça, c'est de mettre un lieu. Alors, c'est les mots, hein, c'est capable. C'est un mot voilà, qui est un peu à la mode aussi. C'est agile, capable. Bon, c'est un peu. Voilà. Mais en tout cas, qui puisse permettre d'expérimenter, de venir, de rencontrer. Et puis après, y a pas, c'est les humains aussi qui vont le constituer, qui vont permettre ça. Hein. C'est-à-dire que si jamais on est avenant, que c'est ouvert, que c'est sympa, qu'on peut s'y poser. Il y a des contraintes parce que toute vie sociale et toute vie collective nécessite des contraintes, mais il y a aussi plein de possibles. Et donc voilà, on essaye de vraiment travailler plus sur les possibles que sur les contraintes dans un premier temps. Et quand il faudra parler de gestion un peu plus tard, ça viendra de soi, mais ça se créera en tout cas.
Et alors, éducation populaire, le mot a été lâché, donc,
ouais.
Donc je ne résiste pas à citer ce bon vieux Fernand Pelloutier, un militant syndicaliste de la fin du 19e siècle. Alors voilà, il expliquait entre autres que l'éducation est un prélude à la révolution, voilà, et que ce qui manquait à l'ouvrier, c'est la conscience de son malheur. Alors finalement, est-ce que ce tiers-lieu, ça peut aussi se penser comme une bourse du travail ?
On peut tout penser. Il y a pas d'impensé. On essaie de minimiser les impensés, mais que ça soit un lieu de partage, de transmission, de communication entre pairs, d'entraide, de solidarité, c'est aussi les valeurs de l'éducation populaire. Voilà. C'est des fois, faut faire gaffe. On a peur de se targuer de mots, quoi, parce que c'est devenu des mots valises. Ça veut plus rien dire. C'est vidé de son sens. C'est ça, on va essayer de pas trop mettre de gros mots, mais d'essayer vraiment autour de l'expérimentation de permettre ces choses-là. Et voilà, que quelqu'un vienne pour réparer son vélo et qu'en même temps à côté il puisse rencontrer quelqu'un qui est en train de faire, je sais pas, du travail du bois et que ça l'intéresse et qu'il se dise bah, pourquoi pas en fait. Et qu'il y ait des petites communautés qui peuvent se créer, des transferts, des échanges et créer des possibles, ça sera déjà très très bien.
Bon alors, Pelloutier, il dit aussi instruire pour se révolter, alors. Ça peut, enfin, selon le point de vue, ça peut être un peu inquiétant, non ?
Bon, non. C'est, tout dépend de comment on considère la révolte, mais elle est toujours source de. C'est qu'on a envie que ça aille mieux quand on se révolte. Donc, hein, c'est qu'on veut. Il y a des révoltes hyper pacifiques hein, qui permettent de pouvoir changer les choses.
Donc, un potentiel lieu de révolte pacifique ?
Bah, en tout cas, d'imaginaires collectifs différents, ça serait déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on puisse créer d'autres espaces d'imaginaire. Et nous, on n'a pas à les construire à la place des... C'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est qu'on n'est pas là pour les construire à la place des personnes. Alors, si bien sûr, il y a un projet qui vient pour pouvoir construire un moteur à explosion qui consommera 600 litres de diesel aux 100 km, je ne suis pas sûr qu'on accompagne ce projet-là. Voilà, on va se le dire, hein, parce que... Il y a plein d'acteurs déjà existants qui portent plein de petites... Et des citoyens lambda hein, qui font dans leur quotidien quid de la cuisine pour ses voisins parce qu'ils ne sont plus en capacité de le faire. Il y a plein de petites chaînes de solidarité ou de compétences acquises qui se sont développées qui pourraient dans ce lieu-là se dire « Et pourquoi je ne le testerais pas là sur autre chose différent ? C'est possible, je peux. Si j'ai un peu de temps et que je veux le mettre là-dedans, là c'est possible. »
Bien, je propose de faire une seconde pause musicale et comme l'heure avance, il va déjà falloir penser à conclure cette émission. Eh bien, nous allons écouter Balaké Sissoko et Vincent Segal. Vous écoutez Radio Campus Tour et c'est toujours la Méridienne. Thank you. bravo Vincent Segal et Balaké Sissoko, vous écoutiez Nyandou, superbe duo, voilà, vous écoutez Radio Campus Tour, c'est la Méridienne et cette émission va bientôt toucher à sa fin puisqu'il est 11h55, heure du studio. Alors Stéphane Houck, je vais vous laisser le mot de la fin, donc peut-être vous voulez commencer par nous rappeler les dates à venir pour ce tiers-lieu.
Ouais, donc la saison 1, donc l'ouverture au public à l'expérimentation et la permanence d'usage, ça commence cette semaine, c'est commencé en début de semaine. Vu qu'il n'y a pas de chauffage, parce que c'est Brut de chez Brut, ça sera du 21 mars au 21 octobre. On va monter une série, donc là c'est la saison 1, on verra s'il y a besoin de saison 2, de saison 3 et tout ça. Et puis la bamboche ou le petit raout pour lancer le truc et puis essayer de faire un petit peu de com' autour et puis d'aller voir les voisins et tout ça, c'est le 2 avril, c'est samedi 2 avril, ça commence à 15h, donc il y a des ateliers, il y a déjà les premiers partenaires ou ceux qui sont sensibles à cette aventure qui vont proposer des choses autour la ressourcerie, du recyclage, il y a des petits ateliers autour... Le centre social qui vient avec sa petite valise à bouquins. Je vais en oublier plein, mais il y a un programme. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, les Beaumont, vous aurez tout ce qu'il faut. C'est le 2 avril, et puis après, il y aura un petit peu de musique à partir de 19h jusqu'à 21h. On aimerait bien que ça aille un peu plus loin, mais on verra ce qui se passe à ce moment-là. Voilà.
Voilà, donc bamboche le 2 avril, ouais. et venez avec votre petit chandail alors.
Il fera un petit peu frais.
Voilà.
C'est ça.
Merci à vous Stéphane Houck d'être venu
Merci
nous parler
beaucoup.
Des casernes Beaumont-Chauvaux et du projet de tiers-lieu. Est-ce qu'on peut retrouver plus d'infos peut-être sur le site de la mairie de Tours ?
Ouais, alors ça commence, et surtout sur les réseaux sociaux, particulièrement avec la page Facebook, je ne sais même pas s'il y a eu le temps d'avoir un Instagram pour l'instant, il y en aura sûrement un. Et puis, faut venir voir, faut venir rencontrer sur le site et participer à sa construction. Puis sinon, si on est un peu plus détaché, il va y avoir un petit peu de publication aussi dans le magazine municipal. Il y a déjà les premières réflexions pour essayer de faire vivre un petit fanzine ou un petit truc pour pouvoir,
Alors, chouette, un fanzine.
Faire l'histoire des Beaumont. Donc voilà.
Et alors, on rappelle une dernière fois les permanences, justement, si on a envie d'aller pointer le bout de sa truffe là-bas.
Ouais, vous pourrez rencontrer Léa et ou Joséphine, les mardis, mercredis, vendredis, de 10h à 18h. Et puis là, c'est sûr, vous trouverez quelqu'un. Et puis passez un petit coup de fil, il y a pareil, sur les réseaux, vous trouverez toutes les informations. Vous passez un petit coup de fil, vous allez voir ce qui se passe. Vous serez les bienvenus.
Et voilà, à bon entendeur. Eh bien, merci à vous. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, ainsi qu'à tous nos très nombreux, évidemment, auditeurs et auditrices. Et nous allons nous quitter en écoutant Eugène Mona. Voilà, passez la meilleure journée possible, toutes et tous.
Là où qu'a monté, il faut qu'on prenne précaution.
Mille à moitié, tu es Milo.
M'en bais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Milo, dis-moi, pas attention, mon nom.
La jalousie qui fait mon divague.
Mille à moitié, tu es Milo.
Où dans le pays, toute bagaille, c'est magie.
Mille, dis-moi, pas attention, mon nom.
M'en bais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Mille à moitié, tu es Milo.
Yeah.